Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste. Cette semaine, je serai accompagné par mon collègue Danny Desriveaux. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir y aller de ses conseils en termes de fantasy football. La saison de fantasy football est terminée, mais quand même, on va faire une petite revue de l'année de joueurs qui ont bien performé, d'autres joueurs qui ont déçu. Et en compagnie de Danny, on va avoir un regard vers l'avant. Habituellement, on fait une analyse des matchs qui ont été joués, mais là, étant donné qu'on enregistre le podcast mercredi, ça fait un bout de temps que ces rencontres-là ont eu lieu et il s'agit de la dernière semaine d'activité, la 18e semaine du côté de la NFL. Alors, on va regarder le portrait de la course aux éliminatoires, autant du côté de l'Association américaine que de la NFC. Alors, sans plus tarder, Danny va se joindre à moi. Et Danny, ça va nous permettre d'éviter de parler d'Antonio Brown. Antonio Brown, ça fait partie du passé. Nous, on regarde vers l'avant. Il ne fait plus partie des Buccaneers de Tampa Bay. Bref, je ne suis plus capable d'en parler ou bien de voir des gens en parler. Nous, on va se concentrer, comme je le disais, sur la course aux éliminatoires parce que là, c'est la dernière semaine déjà du calendrier régulier. Et on va commencer du côté de l'Association américaine. Puisque du côté de l'Association américaine, il reste encore deux places disponibles pour les éliminatoires. Et il y a une lutte qui va se déterminer là, au cours du week-end entre trois équipes pour ces deux places en division, entre trois équipes. En fait, c'est entre quatre équipes, les Steelers, les Raiders, les Chargers et les Colts se battent pour les sixième et septième positions. Alors, les Steelers de Pittsburgh, eux, ils vont affronter les Ravens de Baltimore. Les Ravens, il semble qu'ils sont encore une fois privés des services Lamar Jackson. Alors, les Ravens, j'ai oublié de mentionner, mais bon, ils ont toujours des chances de participer aux éliminatoires. Ils ont une fiche de 8 victoires, 8 défaites. Pour eux, afin de se classer en éliminatoire, ils doivent premièrement vaincre les Steelers et ils doivent espérer une défaite des Chargers, une défaite des Colts et également une défaite des Dolphins de Miami. Donc, on a besoin de beaucoup d'aide du côté des hommes de John Harbaugh. On a perdu nos 5 derniers matchs du côté des Ravens de Baltimore, alors que les Steelers, eux, ils ont besoin de gagner et ils doivent espérer une défaite des Colts d'Indianapolis. Et ben, la rencontre entre Las Vegas et Los Angeles doit pas terminer en match nul. Alors, c'est ce que ça prend pour que les Steelers participent aux éliminatoires. Écoute, ben justement, parlons là, du duel Steelers-Ravens qui va avoir lieu au cours du week-end. Comment tu anticipes cette rencontre? Ben, regarde, encore une fois, comme je disais, Tyler Huntley devra obtenir le départ au poste de quart. Du côté des Steelers, ça a été une belle soirée lundi soir, le dernier match de Ben Roethlisberger au Whitesfield. Mais en termes de performance de Roethlisberger, ça n'avait vraiment pas été fameux.
Oui, puis on a deux équipes, oui, on en parle parce qu'elles sont mathématiquement encore éligibles à potentiellement participer aux éliminatoires, mais deux équipes qu'on est un peu surpris de voir là, qui sont encore en lice parce qu'on voit ces équipes-là semaine après semaine, puis on voit, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas des équipes de calibre des éliminatoires. Du côté de Baltimore, ils jouent sans Lamar Jackson depuis plusieurs semaines. La série de défaites. Défensivement, il reste plus personne sur le terrain pour s'aligner, pour jouer convenablement en défensive, puis de voir que cette équipe-là a encore une chance. Mais, tu sais, comme tu l'as si bien décrit avant, là, ça va prendre une série de circonstances là, pour que ces équipes-là aient une chance de participer aux éliminatoires. Puis la même chose du côté des Steelers, tu les vois performer, tu as vu comment ils ont joué contre Cleveland, puis tu te dis, c'est loin d'être une équipe des éliminatoires qui a encore une chance de participer aux éliminatoires. Donc, tu sais, c'est un match qu'on surveille parce que mathématiquement, il y a des chances, mais d'après moi, tu sais, on va le surveiller très rapidement, puis même si toutes les choses qui devraient arriver arrivent pour ces équipes-là participer aux éliminatoires, je ne suis pas certain que c'est des équipes qui vont aller loin en série.
Oui, non, je suis d'accord avec toi. Là. Les Steelers, bon, ils ont leur défense contre la course, qui est la pire de la NFL. Et Ben Roethlisberger, ses statistiques contre les Browns, 24 en 46 pour 123 verges. Danny, il a complété 24 passes pour 123 verges seulement. Imagine-toi, ça, c'est une moyenne de 2,7 verges par passe tentée. C'est du jamais vu dans l'histoire de la NFL. Jamais un carrière a tenté autant de passes durant une rencontre pour si peu de verges. Et puis Roethlisberger, il allait juste de courtes passes. Alors, comme tu l'as dit, les Steelers sont pas une équipe pour gagner un match éliminatoire. Là. C'est, sérieusement, puis même s'ils vont même se qualifier, ça reste à voir, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas une équipe qui va faire un bout de chemin. Puis les Ravens, j'ai expliqué les scénarios, tout ce que ça va prendre pour qu'ils participent aux éliminatoires. il y a fort à parier que ça ne va pas arriver. Dimanche soir, il va y avoir tout un match entre les Raiders de Las Vegas et les Chargers de Los Angeles. Les deux équipes, c'est simple, le scénario pour ces deux équipes-là, s'ils gagnent le match, bien, ils participent aux éliminatoires. Ça, c'est un match que j'ai vraiment hâte de voir. Je suis impressionné par les Raiders, leur force de caractère. On sait tout ce qui est passé durant la saison. Si j'ai 5 $ à mettre, là, un petit 5 $, un petit 10 $ sur la rencontre entre les Raiders et les Chargers, je vais y aller avec les Chargers en raison du fait que bien, Los Angeles, c'est une équipe le plus talentueuse. Mm-hmm. Je crois en Justin Herbert. Toi, si tu avais une prédiction, si tu avais à choisir là, entre les deux équipes afin de se qualifier pour les éliminatoires, quelle équipe que tu choisirais entre les Raiders et les Chargers?
Ben, j'irais aussi avec les Chargers. C'est, je pense que les Chargers, ils ont eu leur wake-up call il y a une couple de semaines contre Houston. Mais moi, qu'est-ce que je trouve le plus ironique dans tout ça, c'est qu'on a deux équipes qui sont dans un match, tu gagnes, tu rentres, mais ils se sont donné ces opportunités-là à cause de deux raisons totalement différentes. T'sais, on a les Raiders qui sont en mode survie en dépit de tout ce qui s'est passé à l'extérieur du terrain, avec les entraîneurs, les joueurs qu'on a perdus. Puis on a de l'autre côté, on a les Chargers qui sont responsables de leur propre situation, qui ne devraient pas être dans une situation en fin de saison où est-ce qu'ils doivent remporter un match pour se faire une place en série, mais à cause de qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain, leur manque d'opportunisme, leur manque de performance à des moments clés, avec tout le talent qu'il y a sur le terrain, ils se mettent dans une situation où est-ce qu'ils sont au dernier match de l'année, dimanche soir, puis ils sont obligés de remporter un match pour se tailler une place en série. Avec l'ironie là, de pourquoi ces deux équipes-là s'affrontent pour le dernier ticket pour se rendre aux éliminatoires est quand même incroyable dans les circonstances.
Ouais, écoute, les Chargers, s'ils ne participent pas aux éliminatoires, ils vont juste avoir eux à blâmer. Puis comme ça mentionné, ils n'auront pas à regarder bien loin. Là. La défaite d'il y a deux semaines contre les Texans de Houston, ça, c'est tout à fait inacceptable. On a subi une raclée contre les Texans. C'est pas un match qu'on avait perdu de justesse. Mais écoute, je vais continuer de croire aux Chargers, même s'ils m'ont brûlé à quelques reprises au cours de la saison. Comme je l'ai dit, en raison de leur talent, ils sont en santé également, là. Mike Williams est revenu au jeu, Austin Eckler également est revenu au jeu. Alors, j'ose croire qu'ils vont être en mesure de vaincre les Raiders. Les Raiders, la ligne défensive joue très bien. Zay Jones et Hunter Renfrow, là, depuis un mois, ils contribuent beaucoup plus du côté de l'attaque en raison, bon, bien sûr, du départ de Henry Ruggs et de la blessure à Darren Waller. Est-ce qu'on peut maintenir la cadence? On a encore eu un joueur là, qui a été arrêté pour avoir été ivre au volant. Un demi-défensif partant, là, notre troisième demi-coin du côté de la défense des Raiders. Comme ça, on n'a pas appris notre leçon. Donc, ça, c'est une autre tuile. Peut-être ça va être la goutte qui fait déborder le vase, mais les Chargers sont plus talentueux. Alors, moi, j'y vais avec les Chargers. Les Colts d'Indianapolis sont toujours pas assurés d'une place en éliminatoire. Écoute, après avoir commencé la saison régulière avec aucune victoire et trois défaites, c'est vraiment un exploit là, d'avoir des chances de participer aux éliminatoires lors de la dernière semaine d'activité. Seront à Jacksonville contre les pauvres Jaguars qui ont accordé quoi, une cinquantaine de points aux Patriots. Mon Dieu, que c'était pas beau. Écoute, pour Indianapolis, c'est simple. Scénario le plus simple. Enfin, il y a deux autres scénarios, mais le plus simple, s'ils gagnent, ils participent aux éliminatoires. Ils vont jouer contre les Jaguars. Je peux pas croire qu'ils vont échapper ce match-là, Danny.
Ben, je suis d'accord avec toi, Didier. T'sais, d'après moi, Jacksonville est déjà en mode 2022. On est déjà en mode interview du prochain entraîneur. Je pense que on constate par la performance de la semaine dernière contre les Patriots que cette équipe-là a déjà fait ses bagages puis est déjà en mode l'année prochaine. Donc, je serais très surpris de voir Indianapolis échapper ce match-là. Même si, on sait tous là, du côté d'Indianapolis, pour moi, la clé, c'est vraiment Carson Wentz. C'est quel niveau de performance il va offrir. T'sais, on sait qu'ils vont être capables de bien courir le ballon. On sait qu'ils vont bien jouer défensivement. Mais est-ce que Wentz va être capable de faire les jeux au bon moment, éviter les erreurs critiques au mauvais moment? Mais je pense que même avec une contre-performance de Wentz, je pense qu'Indianapolis peut se présenter là et remporter ce match-là assez facilement.
Oui, en théorie, la seule chose, ça serait bien de voir Wentz bien terminer la saison régulière pour les Colts d'Indianapolis. Parce que la semaine dernière, là, contre les Raiders, écoute, ça a été lamentable, sa performance. Il a commencé le match 1-8, complété une seulement de ses 9 premières passes, de ses 8 premières passes tentées. Et il y a plusieurs de ses passes qui auraient pu être interceptées, mais je ne veux pas être trop dur à son endroit parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était sur la liste de la COVID. Donc, il a testé positif pour la COVID-19. Il est non vacciné, il ne s'était pas entraîné de la semaine, puis il avait l'air d'un joueur justement qui ne s'est pas entraîné de la semaine lorsqu'il a joué contre les Raiders. Donc, je ne veux pas trop être dur en son endroit, mais il a besoin de connaître un bon match, même si c'est juste contre Jacksonville, juste pour sa confiance et pour la confiance de ses coéquipiers également. Mais il n'y a aucun doute que si les Colts participent aux éliminatoires, il va être la clé de cette équipe-là, parce qu'on va mettre, on va le mettre au défi de nous battre. C'est certain qu'on va tout faire du côté des défenses adverses, afin de ralentir Jonathan Taylor. Parlant de Jonathan Taylor, qui est le meilleur demi à l'attaque de la NFL cette année, mais il y a un petit astérix, ça, parce que Derrick Henry, bien sûr, il est blessé un pied depuis plusieurs semaines. Il connaissait une saison incroyable, malgré le fait que ça fait quoi? Je pense 8 semaines qu'il n'a pas joué, Danny. Il est toujours au 6e rang de la NFL, au chapitre des verges. Les Titans du Tennessee, eux, ils ne sont pas encore assurés du premier rang du côté de l'Américaine. Ils sont en première position et Derrick Henry a repris l'entraînement. Il devrait reprendre l'entraînement, plutôt, je pourrais dire, cette semaine. C'est ce que j'ai vu sur Twitter par une reporter qui couvre les activités quotidiennes des Titans du Tennessee. Alors, pour les Titans, ben, ils vont être à Houston contre les Texans et le scénario est simple. S'ils gagnent contre les Texans, ils seront la première tête de série du côté de l'Américaine. Et surtout, ils vont avoir la semaine de congé. Donc, ça va donner une semaine de plus à Derrick Henry pour effectuer un retour au jeu. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des Titans du Tennessee? Bon, j'imagine que tu t'attends à une victoire contre les Texans de Houston. Quoique c'est une équipe de section, des fois, on ne sait jamais. Là, on a des mauvaises surprises à ce niveau-là.
Ben moi, je m'attends à une victoire des Titans. Puis je pense que le capital émotionnel qu'ils vont recevoir du fait de l'espoir d'être à la portée des éliminatoires, l'opportunité de sécuriser home field advantage, une semaine de repos, le potentiel du retour de Derrick Henry. Je pense que c'est une équipe qu'on était presque sur le bord d'oublier quand Derrick Henry s'est blessé.
On les avait enterrés. Là, moi, je les ai enterrés, en tout cas.
Exact. Il y a beaucoup de gens qui les avaient enterrés. Puis là, je pense que c'est une équipe qui est en train de dire « Hey, on a peut-être une chance de remporter un Super Bowl. » La manière que la défensive joue, la manière qu'on est capable de courir le ballon sans Derrick Henry. Donc, si jamais Derrick Henry serait capable de revenir, le repos qui vient avec la semaine de congé. Donc, peut-être que des gens comme A.J. Brown qui reviennent en santé, peut-être un Julio Jones qui, avec le temps off, peut-être serait capable de revenir dans l'alignement et être capable de performer. Fait qu'il y a des morceaux en place à Tennessee qui font en sorte que c'est une équipe là, qui peut faire un bon bout de chemin dans les éliminatoires s'ils sont capables de rentrer reposés avec du momentum.
Oui, non. En plus, ils ont l'avantage du terrain par surcroît. Donc, les équipes vont devoir se rendre au Tennessee afin de les affronter. Puis Derrick Henry, s'il est réellement à 100%, là, on parle d'une blessure à un pied, c'est un gros demi à l'attaque. Alors, moi, je vais devoir le voir jouer avant de croire qu'il est réellement à 100%. Mais s'il l'est, imagine-toi, Dali, il va avoir les jambes fraîches. Là. Ça fait plus de 2 mois qu'il n'a pas joué. Au mois de janvier, avoir à plaquer Derrick Henry qui va arriver à 100 000 à l'heure, ce ne sera pas reposant pour les équipes adverses. Mais pour moi, Mike Vrabel, si j'avais un vote pour l'entraîneur de l'année, moi, c'est Mike Vrabel que je le donnerais. Parce que d'être en mesure, d'avoir l'opportunité de terminer au premier rang de l'association américaine avec toutes les blessures qu'on a eues du côté des Titans du Tennessee, c'est vraiment là toute une performance de la part de l'entraîneur-chef Mark Vrabel. L'équipe qui est en deuxième position, ce sont les Chiefs de Kansas City du côté de l'américaine. Les Chiefs seront à Denver pour y affronter les Broncos. Les Broncos, oui, samedi après-midi à 16h30. Les Chiefs ont toujours des chances de terminer au premier rang de l'association américaine et d'avoir l'avantage du terrain. Mais pour que ça arrive, ben, premièrement, ils doivent vaincre les Broncos de Denver et ils doivent espérer une défaite des Titans du Tennessee. Bon, si les Chiefs ont un match nul et les Titans perdent, les Chiefs termineront au premier rang, mais le scénario du match nul est peu probable. Kansas City a perdu contre les Bengals la semaine dernière. Justement, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Kansas City? En attaque, on a marqué 28 points en première demi et seulement 3 lors de la deuxième demi.
Oui, tu sais, oui, on peut parler des insuccès en attaque, mais qu'est-ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment défensivement. T'sais, j'ai l'impression que du côté de la défensive de Kansas City, on a des choses à se faire pardonner cette semaine, on a des choses à corriger, on a des choses à beaucoup mieux exécuter. Là, qu'est-ce qu'ils ont laissé Jamar Chase avec Joe Burrow faire contre eux autres sans être capable de s'ajuster? Pour moi, ça me fait vraiment lever le sourcil. Là. Puis c'était une défensive qui performait très bien dans les dernières semaines. T'sais. Oui, il y avait une série de victoires, mais ça se faisait à cause de la défensive qui était étanche, qui jouait du très bon football. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de corriger qu'est-ce qu'ils ont mis sur vidéo puis avoir sorti une bonne performance défensive? Parce que je me dis, l'offensive des Chiefs va très fort probablement être capable de toujours performer, faire des points, donner une chance à cette attaque-là, cette équipe-là de remporter des matchs. Mais est-ce que c'est la défensive qui peut redevenir celle qu'elle a été durant la série de victoires?
Oui, écoute, la série de victoires, c'était quoi? 8 victoires consécutives qu'on a eues. On a trébuché contre les Bengals de Cincinnati. Je ne vais pas m'emporter avec ça du côté de l'unité défensive qui avait été dominante au cours de cette séquence victorieuse. Mais ouais, la performance du coordinateur Steve Spagnuolo de cette jamais ajustée, comme tu l'as dit, de ne jamais doubler Jamar Chase qui les a brûlés pour 11 réceptions et seulement 266 verges.
Seulement, oui.
Écoute, je regardais le match en compagnie de Jasmine Leroux qu'on faisait le Red Zone. On n'en revenait pas, on se disait, mais mon Dieu, à un certain moment donné, on va amener un maraudeur de son côté, on va le doubler. Il n'y a eu aucun ajustement d'apporter. Donc ça a été décevant, mais je ne suis pas inquiet pour Kansas City quand même, là, après une séquence de 8 victoires. On a trébuché, mais je pense qu'on va se replacer. Du côté des Bengals, on a toujours des chances mathématiques de terminer au premier rang de l'Association américaine. Pour ce faire, bon, ça prend une victoire contre les Browns. On va jouer à Cleveland. Baker Mayfield ne sera pas là. Puisque lui devrait subir une intervention chirurgicale finalement à son épaule gauche. Mais je pense que les valises sont faites là, du côté des joueurs des Browns. Tu parlais des Jaguars de Jacksonville. On a eu une meilleure saison là, du côté de Cleveland. On a quand même eu cette victoire, mais ça a été vraiment une saison décevante. Je pense qu'on est prêt à passer à autre chose étant donné qu'on est éliminé. Alors bon, les Bengals vont affronter les Browns. Pour que Cincinnati termine au premier rang de l'Américaine, ça leur prend une victoire, une défaite des Titans, une défaite des Chiefs et une défaite des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est peu probable que les Bengals se terminent au premier rang. Mais est-ce que tu crois que les Bengals sont une équipe qui peut faire un bout de chemin là, en éliminatoire? On sait à quel point leur attaque est puissante. Et puis, leur défense, toi, d'une semaine à l'autre, je ne sais pas à quoi m'attendre. Même la semaine dernière, première demi, on accorde 28 points à Kansas City. En deuxième demi, on apporte des ajustements, on joue très bien, puis on en a juste accordé 3.
Ben moi, je pense que oui, parce que c'est en dépit des hauts et des bas de la défensive et même l'offensive par moment, tous les éléments sont là offensivement et défensivement. T'sais, on parle beaucoup de l'attaque à Cincinnati, mais il y a quand même des très bons morceaux défensivement. Le front défensif, il est dominant, donc ils ont des bons demi-défensifs, donc ils sont capables. Donc, tu sais, en éliminatoire, des fois, c'est pas une question d'avoir été constant toute l'année, c'est juste to get it right au bon moment, puis d'aligner des bonnes performances. Puis pour faire ça, il faut que les éléments soient présents. Donc moi, je me dis, qu'est-ce qui m'inquiète avec les Bengals? C'est pas s'ils sont capables, s'ils ont le potentiel sur les joueurs pour le faire, c'est plus psychologiquement. T'sais, est-ce qu'ils sont trop jeunes? T'sais, parce que là, c'est arrivé vite. Là, ils sont passés d'une équipe qui était absente des éliminatoires, puis là, ils sont menés par plein de jeunes joueurs, jeunes entraîneurs. Puis est-ce que c'est arrivé trop vite pour eux autres? Est-ce qu'ils vont être capables de profiter de l'opportunité d'être une bonne équipe avec un bon aliment puis faire un bout de chemin, ou ça va être trop pour eux autres, trop tôt dans leur maturité de championnat pour cette équipe-là. Fait que c'est plus ça qui m'inquiète, parce que pour moi, du côté des Bengals, tout est là, là.
Non, c'est vrai, c'est un bon point que tu amènes, parce que gagner, c'est un processus. Hein? Tu sais, c'est rare que tu vois une équipe d'une année à l'autre, là, comme les Bengals, qui étaient une des pires formations de la NFL l'année dernière. Là, accéder au Super Bowl là, la saison suivante, ça arrive, mais rarement. Mais au moins, on a vu la maturité, les Bengals gagner en maturité cette année. Souviens-toi, la première fois qu'ils avaient vaincu les Ravens au Baltimore, on se disait « Wow, hey, ils ont vraiment bien joué ». La semaine d'après, ils ont perdu à New York contre les Jets et Mike White. Là, j'avais hâte de voir le genre de performance qu'ils allaient offrir cette semaine, en fait la semaine dernière, contre les Chiefs de Kansas City. Parce que encore une fois, ils avaient connu un gros match contre les Ravens. Je me disais, est-ce qu'il va y avoir un relâchement? La rencontre a mal commencé contre les Chiefs. Je me disais, bon, mais ça y est, ils n'ont pas encore appris de leur leçon. Mais là, finalement, ils sont revenus en force pour l'emporter. Donc, on a vu une progression. Ce qui m'inquiète du côté des Bengals, pour moi, Danny, c'est encore une fois, c'est la ligne à l'attaque. La décision de repêcher Jamar Chase en première ronde, ça a été la bonne. Au moment du repêchage, j'étais pas d'accord. J'aurais préféré les voir repêcher un joueur de ligne à attaque comme Penei Sewell. Mais écoute, il connaît statistiquement la meilleure saison qu'un receveur recrue n'a jamais connue dans la NFL. Alors oui, c'est un joueur d'impact. Ça a été la bonne décision de le repêcher. Mais la ligne à l'attaque, encore une fois, en termes de protection, elle a des ennuis, un manque de talent au sein de cette unité-là. Et on va devoir miser sur Joe Mixon et le jeu au sol. On va devoir avoir un équilibre si on veut connaître du succès en éliminatoire, selon moi, du côté des Bengals de Cincinnati. Ça sera à surveiller. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, eux, bon, ils sont assurés d'une place en éliminatoire. Ils vont jouer à Miami contre les Dolphins. Traditionnellement, les Patriots ont des ennuis à Miami hein, lorsqu'ils jouent contre les Dolphins. Ce match-là va avoir lieu dimanche à 16h25. Les Patriots aussi ont toujours des chances de terminer au premier rang de l'association américaine, mais encore là, ça prend beaucoup de choses. Premièrement, ils doivent gagner. Ils doivent espérer une défaite des Bills, une défaite des Chiefs, une défaite des Titans. Bref, ils doivent gagner et espérer que toutes les équipes qui les devancent au classement perdent, ce qui va fort probablement pas arriver. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Patriots? Bon, c'était contre les Jaguars de Jacksonville. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses qu'on peut tirer de cette performance-là. Qu'est-ce que tu penses de l'état de la Nouvelle-Angleterre en ce moment avec seulement un match à jouer en saison régulière?
Oui, je suis d'accord avec toi. C'était contre Jacksonville, une équipe qui avait probablement terminé leur saison il y a une couple de semaines. Mais je pense que cette semaine, en dépit de jouer contre une équipe qui ne peut plus participer aux éliminatoires, c'est quand même une défensive de calibre éliminatoire qu'on va affronter du côté de Miami. Une défensive qui est capable de mettre la pression sur le corps, qui est capable de bien jouer dans la tertiaire. Fait que moi, je pense que ça va quand même être un gros test pour les Patriots de voir offensivement et par la passe comment ils performent contre cette défensive-là. On sait qu'ils sont capables de courir le ballon, les Patriots. On sait qu'ils sont capables de bien jouer défensivement. Donc, c'est pas vraiment cette portion-là de cette équipe-là qui m'inquiète. C'est vraiment plus Mac Jones contre une défensive de calibre éliminatoire, comment il va se tirer d'affaire, parce qu'ils vont avoir besoin d'un Mac Jones qui est capable de lancer le ballon, faire des gros jeux à des moments opportuns, parce que n'importe qui va jouer contre les Patriots va forcer Mac Jones à les battre. Puis je pense que ça va être un bon test pour lui en fin de saison là, de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire contre une bonne défensive qui va le challenger là.
Oui, je suis bien d'accord avec toi. J'ai bien hâte de le voir, Mac Jones, en éliminatoire. Pour ce qui est des Bills de Buffalo, eux vont terminer leur saison régulière en recevant les Jets de New York. Les Bills, ils n'ont pas encore assuré du premier rang de la section S de l'Américaine. Mais pour ce faire, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de vaincre les Bills de Buffalo. C'est de vaincre les Jets de New York. Ça, c'est le scénario le plus simple pour les Bills. Mais moi, j'ai trouvé leur performance vraiment très inquiétante dans leur victoire de la semaine dernière contre les Falcons d'Atlanta. Écoute, Josh Allen, on s'en est parlé, toi et moi. Josh Allen, on lui demande de tout faire. Non seulement c'est le carrière, mais c'est également leur meilleur porteur de ballon. Une cape de Superman pour qu'on puisse l'emporter du côté des Bills. Puis là, il n'avait pas sa cape. Là, il avait des allures de Clark Kent, malheureusement, la semaine dernière pour les Bills de Buffalo. Il a été victime de 3 mauvaises interceptions dans la zone des buts. En plus, on arrivait près de la zone des buts, on ne courait pas avec le ballon en première demi. On passait le ballon, on courait avec Josh Allen. Donc, il a été victime de revirement. Puis là, finalement, Brian Daboll, le coordinateur à l'attaque des Bills, s'est mis à courir avec le ballon de façon conventionnelle. Résultat, Devin Singletary a amassé plus de 100 verges au sol. Je ne sais pas si on va commencer à faire ça plus souvent, ce statut de l'année du côté des Bills, mais tous les problèmes que Buffalo a ont fait surface durant ce match-là. On est juste chanceux que c'était contre les Falcons d'Atlanta. Qu'est-ce que tu penses de l'état des Bills à l'avancée de la saison?
Ben, je suis d'accord avec toi, le même constat. J'ai l'impression que les Bills vont avoir une autre opportunité de roder qu'est-ce qu'ils veulent être à la porte des éliminatoires. Est-ce qu'ils vont continuer d'être une équipe qui mise le tout pour le tout sur les épaules de Josh Allen ou est-ce qu'ils vont être capables de développer des systèmes puis des choses qu'ils veulent faire offensivement avec le jeu au sol, comme ils ont été capables de faire en deuxième demi contre l'Atlanta. Puis même si c'est contre les Jets, c'est une équipe qui ne devrait pas vraiment leur donner du trouble. Mais moi, je veux les voir continuer à roder le système du jeu au sol, d'alléger la pression sur Allen avec plus de jeu au sol, avec Singletary, les porteurs de ballon, les jeux, les jet sweeps avec les receveurs de passes qui ont, tu sais, les McKenzie de ce monde. Donc, tu sais, je veux leur voir développer cette facette du sol. Puis en red zone aussi, tu sais, je veux leur voir être capable de, tu sais, mettre le big team personnel puis de jouer, tu sais, du football d'éliminatoire, tu sais, du smash mouth puis du jeu robuste au sol. Fait que je veux leur voir faire ce genre de football-là contre les Jets cette semaine pour mieux se préparer pour les éliminatoires.
Oui, parce qu'il n'y a aucun doute. Là. Lorsque tu arrives près de la zone des buts, tu dois être en mesure de courir avec le ballon. T'sais, tu ne peux pas arriver avec des formations avec 5 receveurs de passe continuellement. Ça ne va pas fonctionner. Puis, si tu n'as pas d'attaque au sol, tu ne vas pas contrôler l'allure de la rencontre. Puis, éventuellement, Josh Allen va se blesser si tu lui demandes de toucher au ballon 60 fois par match, comme il l'a fait contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors, ça va vraiment être à surveiller. Écoute, on va se tourner maintenant du côté de l'association national, où là, il y a seulement une place disponible pour les éliminatoires. Les 6 autres places ont déjà été déterminés. Les Packers de Green Bay sont assurés de terminer au premier rang de la nationale et d'avoir la semaine de congé. Alors, on va voir si Aaron Rodgers va même jouer cette semaine. Bon, les Cowboys sont champions de la section Est, les Bucks champions de la section Sud. Les Cards, les Rams et les Eagles sont assurés d'une place en éliminatoire. Alors, on va se concentrer là, sur les équipes qui ont encore des enjeux. On ne va pas nécessairement parler des Packers, mais le match de la semaine du côté de la Nationale, il n'y a aucun doute, c'est la rencontre qui va mettre aux prises les 49ers de San Francisco aux Rams de Los Angeles, puisque les Niners et les Saints sont les deux équipes qui se battent pour la septième et dernière position, donnant accès aux éliminatoires. Les Rams, eux, ils veulent s'assurer du premier rang de la section Ouest dans la Nationale. Alors, ça va être un match qui sera présenté à 16h25 dimanche. Le scénario est simple pour les Niners. Danny, afin de participer aux éliminatoires, sont en mesure de vaincre les Rams. Ils vont participer au match d'après-saison.
Oui, exactement, mais ça ne sera pas un défi de petite taille là, parce qu'ils affrontent les Rams. Puis je pense qu'ils auraient espéré que les Rams soient dans une situation où est-ce que c'est plus sécurisé. Ils vont pouvoir reposer tout le monde, mais c'est loin d'être le cas. Les Rams vont avoir tous leurs joueurs disponibles. Ils veulent sécuriser la première position dans l'ouest de la Nationale, jouer à domicile pour commencer les éliminatoires. Donc, ça ne sera pas un défi de petite taille. Puis, en plus, du côté de San Francisco, on va sûrement jouer avec Trey Lance, qui est encore un jeune carrière. Oui, c'est un carrière recrue, mais ce n'est pas un carrière recrue qui a joué tous les matchs cette saison. C'était le backup de Garoppolo. Donc, c'est encore un carrière jeune en expérience, donc qui vit des moments de haute pression. La semaine dernière, il devait jouer un match pour la survie de l'équipe dans la course aux éliminatoires. Puis là, il en fait face à un autre. Puis je sais que Shanahan a fait un bon travail la semaine dernière d'aider son carrière, le mettre dans des bonnes positions pour faire des jeux. Mais est-ce qu'il va être capable de le faire une deuxième fois contre la défensive des Rams, qui n'est pas celle de Houston? C'est pas le même mandat là, pour le jeune carrière.
Oui, parce que sa première demi, là, c'était proche d'être... Elle était proche d'être désastreuse, parce que, comme tu l'as dit, on jouait juste contre Houston, puis il avait beaucoup d'ennuis. Il a mieux joué en deuxième demi, il a complété des belles passes, mais moi, je suis toujours pas convaincu que Trey Lance va être un carrière de concession. Mais là, juste pour se concentrer pour un match contre la défense des Rams, Aaron Donald et compagnie, Von Miller, je pense que ça va être difficile pour le jeune carrière des 49ers. Ça ouvre la porte pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Saints, avec leur fiche de 8 victoires et 8 défaites, scénario est simple. Ils vont affronter les Falcons. S'ils battent les Falcons et que justement les 49ers perdent contre les Rams, eh bien, ce sont les Saints qui vont détenir la septième et dernière position qui donne accès aux éliminatoires. Quel est ton compte rendu de la Nouvelle-Orléans? Pas beaucoup d'attaques, pas beaucoup de punch en attaque du côté des Saints. Bon, moi, la semaine dernière, Taysom Hill était de retour au jeu. Tous les joueurs qui avaient raté le match de la semaine précédente contre Miami en raison de la COVID étaient de retour. Puis, il reste qu'on a une défense qui, par moment, est dominante du côté de la Nouvelle-Orléans. Alors ça leur permet toujours d'être dans les matchs, même si l'attaque n'est pas très prolifique.
Oui, pour la Nouvelle-Orléans, tu sais, c'est le mandat il est quand même simple. Et une chance qu'on joue contre les Falcons d'Atlanta, qu'on a vu allouer plusieurs verges avec le jeu au sol contre Buffalo la semaine dernière. Puis ça serait plusieurs verges en presque une demi de football. Donc, tu sais, Nouvelle-Orléans va arriver dans ce match-là puis va courir le ballon du début jusqu'à la fin, que ce soit avec Taysom Hill, Kamara. Ça va pas y aller par la passe. Fait que je pense que le fait de jouer contre Atlanta, ça joue dans les forces de la Nouvelle-Orléans. Puis comme tu le décris, là, la Nouvelle-Orléans a une défensive incroyable. Donc, s'ils étaient capables de remporter ce match-là, puis la défaite de San Francisco leur donnait une chance de rentrer dans l'éliminatoire, la question que j'ai, c'est est-ce que les Kamara puis les Taysom Hill sont capables d'en faire assez pour supporter le travail de la défensive? Parce que cette équipe-là a une défensive de calibre éliminatoire, peut-être même de calibre championnat. On les a vus le faire plus tôt dans l'année, mais c'est offensivement là, qu'il y a juste pas assez de mordants, pas assez de joueurs explosifs pour faire des gros jeux.
Oui, écoute, on va se tourner maintenant du côté des Cardinals de l'Arizona, qui, eux, afin de terminer au premier rang de la section Ouest de la Nationale, eh bien, ils vont devoir vaincre les Seahawks de Seattle et espérer une défaite des Rams de Los Angeles contre les 49ers. Donc, ça prend ces deux choses-là pour que les Rams terminent au premier rang et donc qu'ils accueillent un match éliminatoire lors du premier tour. Les Cards se sont présentés à Dallas avec une séquence de 3 défaites. Les Cowboys, tout au long de la semaine, on disait « Wow, regarde-moi l'attaque des Cowboys, elle a marqué une cinquantaine de points contre l'équipe d'entraînement de Washington, puisqu'il y avait tellement cas de COVID du côté de Washington la semaine dernière. » Puis, Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que les Cards allaient être en mesure de gagner ce match-up. Puis, écoute, ça a été vraiment une excellente performance de leur part. Kyler Murray a fait des jeux avec ses jambes, ce qu'il n'a pas fait lors de la deuxième moitié de la saison. Alors, toi, est-ce que tu crois que les Cards se sont replacés et qu'ils seront en mesure de vaincre les Seahawks pour maintenir leur chance de terminer au premier rang de la section?
Ben moi, je pense que c'est sûr que les Cards, c'est une meilleure équipe que les Seahawks. Puis je pense que la victoire de la semaine dernière contre les Cowboys leur a donné le momentum puis la confiance nécessaire, au moins pour battre les Seahawks de Seattle. Mais tu sais, reste à voir quel genre d'équipe va rentrer dans les éliminatoires. Est-ce qu'on va voir l'équipe qui a battu les Cowboys, qui a bien joué défensivement, qui a empêché les Cowboys d'explosifs, qui a empêché la défensive des Cowboys de créer des revirements puis d'être agressif sur le carrière, ou bien on va voir l'équipe qui avait perdu plusieurs matchs de suite, puis qui était, il y a quelques semaines ou quelques mois, là, qui était à la tête de la nationale, puis on pensait que c'était presque une garantie qu'elle allait jouer à domicile, puis qu'elle allait peut-être avoir un bye week, puis finalement, on s'entraînait de se battre pour jouer potentiellement un match à domicile en éliminatoire. Mmh. Donc, j'ai hâte de voir quel genre d'équipe qu'on va voir, parce que c'est une autre équipe où est-ce qu'il y a des éléments qui sont présents, même s'ils n'ont pas de Andrew Hopkins, là, il y a quand même des très bons joueurs là, offensivement et défensivement dans cette équipe-là.
Oui, je suis bien d'accord avec toi. Écoute, bon, j'avais dit qu'on n'avait pas parlé d'Antonio Brown, mais je veux quand même qu'on parle des Buccaneers de Tampa Bay, parce que, bon, comme je l'ai dit, eux sont assurés de terminer au premier rang de la section sud de la Nationale. Aujourd'hui, on se concentre plus là, sur les équipes pour qui là, leur classement final n'est pas déjà déterminé. Mais on a beaucoup parlé d'Antonio Brown, OK, depuis dimanche, mais une chose que les gens n'ont pas mentionné, du moins dans les médias, c'est que ça a tout pris pour que les champions en titre du Super Bowl soit en mesure de vaincre les Jets de New York. Ça a pris une remontée spectaculaire, une séquence là, incroyable de Tom Brady, la passe de toucher qu'il a complétée pour donner les devants aux Buccaneers. C'était une passe parfaite. Écoute, c'était contre les Jets, une des pires équipes de la NFL. Les Jets ont amassé 150 verges au sol, Danny. Mm-hmm. Pour la défense des Bucs, qui habituellement est impénétrable par la voie terrestre. Est-ce que tu t'inquiètes pour les Buccaneers de Tampa Bay? Parce que c'est vraiment pas la même formation qui a gagné le Super Bowl, là.
Moi, je suis inquiet. Puis avec la série de blessures qu'il y a eu dans les dernières semaines à la position de receveur, à la position de porteur de ballon, la performance contre les Jets. Et moi, j'avais retenu des séquences où est-ce que non seulement les Jets ont réussi à courir le ballon contre Tampa Bay, mais ils sont allés d'une manière robuste. Ils ont dominé physiquement. Puis c'est pas le genre de choses que tu veux mettre sur vidéo à l'entrée des éliminatoires quand c'est supposé être une de tes forces, ton identité défensive là, de jouer le football robuste avec le front défensif qu'on connaît qu'il y a à Tampa Bay. Donc oui, c'est quelque chose qui m'inquiète. Puis c'est de tirer de l'arrière 24-10 contre les Jets quand toi, t'es une équipe des éliminatoires et puis tu joues contre une équipe qui va probablement repêcher dans le top 3 l'année prochaine. C'est pas le genre de performance que tu veux mettre sur vidéo à la porte des éliminatoires. Donc moi, j'ai l'impression que Tampa Bay, puis en plus, on ne voulait pas parler d'Antonio Brown, mais Antonio Brown était dans l'alignement à cause des problèmes de blessure. Donc moi, j'ai l'impression que, ultimement, Tampa Bay va souffrir d'un manque de ressources offensives. Le système de jeu que Tampa Bay veut jouer, c'est plusieurs éléments offensifs à qui Tom Brady peut distribuer le ballon. Mais je pense qu'on va en manquer assez de bons pour être capable d'aller loin en éliminatoire cette année.
Oui, surtout que la défense, tout au long de la saison, elle a été décevante. Elle n'a pas été dominante comme elle l'avait été lors des matchs éliminatoires. Parce que souvent, on l'oublie, c'est la défense qui a transporté les Bucs lors des matchs éliminatoires. Souviens-toi, on avait fait la vie dure à Drew Brees au Superdome. Ensuite de ça, on avait créé des revirements contre Aaron Rodgers et les Packers. Bien sûr, la performance lors du match du Super Bowl, où est-ce qu'on a pourchassé, on a appliqué une pression constante sur Patrick Mahomes. Mais l'autre élément qui passe sous le radar, c'est le jeu au sol, la perte de Leonard Fournette. Leonard Fournette, qui connaissait toute une saison, finalement, il jouait de façon, il jouait avec constance, semaine après semaine, il offrait de bonnes performances. Ronald Jones n'est pas un aussi bon coureur que Leonard Fournette. Keyshawn Vaughn, bon, oui, il est rapide et tout, mais il avait été un choix de troisième ronde il y a quelques années, puis il n'a jamais atteint son potentiel. Alors, la perte de Leonard Fournette également fait très mal. Donc, c'est pour ça que je dis, pour toutes les raisons que tu as mentionnées, puis qu'est-ce que je viens de dire, on est loin d'avoir la même équipe du côté des Buccaneers de Tampa Bay qu'on avait la saison dernière. Il ne faut pas oublier, l'année dernière, bon, on était allé sur la route, au Lambeau Field, à la Nouvelle-Orléans, puis il n'y avait pas de spectateurs dans les stades. Donc, il n'y avait pas de bruit, c'était plus facile. Là, cette année, Là, on va terminer au premier rang de la section. Notre premier match éliminatoire va être à domicile, mais après ça, fort probablement, on va voir comment les éliminatoires vont se dérouler. On va peut-être devoir aller sur des terrains adverses avec la foule hostile, parce qu'aux États-Unis, c'est pleine capacité dans les stades, ça c'est un autre sujet. Mais c'est ça, donc ça ne sera pas aussi facile, entre guillemets, que cela a été l'année dernière. Alors ça va être à surveiller, mais moi aussi, comme toi, je suis très inquiet du côté des Buccaneers de Tampa Bay. En plus, je les avais choisis pour aller au Super Bowl contre les Bills. Donc, on va voir, mais on dirait que ma prédiction du mois d'août ne va pas se réaliser. Bon, ben écoute, ouais. Danny, hey, on a réussi, on a fait le tour, on a parlé de tous les scénarios en vue de la 18e et dernière semaine d'activité, de tous les scénarios éliminatoires. On a bien hâte de voir là, dimanche soir quelles seront les équipes qui vont combler les dernières positions disponibles. Bien sûr, comme à l'habitude, on va voir un dimanche rempli sur les zones de RDS avec des matchs à 13h, 16h. Le match en soirée mettant aux prises les Raiders aux Chargers, qui sera un match éliminatoire, tout simplement. Le gagnant va accéder aux éliminatoires et l'autre, ben, va devoir retourner chez lui. Toi, tu seras en compagnie de Andréane Barbeau à NFL Extra. Alors que moi, durant la journée, ben, je serai en compagnie de Jasmin Leroux au NFL Red Zone pour la dernière fois de cette saison 2021-2022. Alors, on va être très occupés. Il ne faut pas oublier, oui, il y a deux matchs cette semaine, samedi en plus. Hein? Tu vois, j'oublie bien ça, cette semaine, le retour à des rencontres samedi. Alors, on va avoir un week-end chargé sur les ondes d'RDS. On espère que vous allez être à l'écoute. Ben, écoute, Danny, je te remercie de t'être rejoint au podcast Le Sac du Cœur. Ça fait toujours plaisir de t'avoir comme invité. Ben oui, j'aime toujours savoir qu'est-ce que tu penses. Là, on a plus le temps de parler en longueur que lorsqu'on est en onde à la télé là, des équipes. Alors écoute, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Puis de toute façon, ben, on se voit au boulot au cours du week-end.
Yes, sir. Merci, Didier.
Bonsoir à toi. Alors, le moment maintenant est venu de se tourner sur le fantasy football. Marc-André, la saison du fantasy football, elle est terminée. La semaine dernière, c'était les matchs de championnat. Alors, on va regarder en arrière un peu les joueurs qui nous ont impressionnés par leur performance, les joueurs qui nous ont déçus, parce que il y a quand même le fantasy football. Bon, les saisons sont terminées, mais le fantasy football individuel, ça se poursuit. Donc, pour les gens qui sont démordus, ils peuvent continuer de jouer, pas juste au cours de la 18e semaine, mais également lors des éliminatoires.
Absolument. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous un genre de laboratoire un peu. Je vais décider de me pencher sur la question de la constance des joueurs fantasy de semaine en semaine au cours de la dernière saison, parce qu'on le sait, la plupart des gens, la plupart d'entre vous jouez à des pools ou des ligues fantasy de format head-to-head, donc face à face. Donc, de semaine en semaine, la constance des joueurs peut parfois être... Il y a des chiffres qui peuvent être révélateurs ou il y a des... afin de connaître peut-être la vraie nature ou la vraie valeur de certains joueurs. Je me suis basé pour cette chronique sur le site Fantasy Pros qui offre une charte de constance et j'ai divisé ça en trois parties. Donc, chez les quarts, on va regarder ça chez les quarts, chez les porteurs de ballon et chez les receveurs de passes. Donc, la charte Fantasy Pro chez les quarts présente a évalué, disons, les performances des quarts à chaque semaine et a divisé ça en trois catégories. Donc, une performance médiocre, c'est moins de 15,3 points fantasy au cours de la semaine. Bon, c'est entre 15,3 et 23 points fantasy. Il est excellent. C'est plus de 23 points fantasy par semaine. Et ce qu'on remarque, c'est que l'écart avec le meilleur ratio de qualité, c'est-à-dire des performances soit bonnes, soit excellentes, eh bien, voici le top 5. C'est vraiment, on voit que c'est des cas vraiment qui ont connu une saison exceptionnelle. Josh Allen a obtenu une bonne ou une excellente performance dans 14 matchs sur 16 cette saison. Aaron Rodgers, 13 sur 15. Matthew Stafford, 13 sur 16. Justin Herbert, 13 sur 16, donc 81%. Et Jalen Hurts, 12 sur 15. Donc, c'est les 5 quarts cette saison qui ont obtenu au moins un départ de qualité dans au moins 80% de leurs matchs. Et ce qu'on remarque, c'est ces 5 quarts-là, eh bien, il y en a plusieurs que ce n'étaient pas vraiment des quarts que vous avez repêchés dans le top 5 à la position de quart arrière. Je pense notamment à Matthew Stafford.
Certainement pas Jalen Hurts, hein?
Non, certainement pas Jalen Hurts, qui vraiment a été vraiment une aubaine cette année en format fantasy. Donc, Jalen Hurts, même Aaron Rodgers était pas nécessairement pris dans le top 5 dans certaines ligues. Matthew Stafford encore moins et Justin Herbert non plus. Et ce qu'on remarque, c'est que vous le dites, bon, les quarts qui ont été pris tôt dans vos poules, c'est-à-dire Patrick Mahomes, par exemple, vous vous demandez, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Patrick Mahomes, on sait qu'il a connu vraiment une saison fantasy en dents de scie, et ces statistiques-là le prouvent. Pat Mahomes a vraiment connu vraiment une saison en dents de scie. Donc oui, il a obtenu 15,3 points fantasy ou moins dans 5 matchs cette saison. Et ça, c'est pour un carrière que plusieurs dans vos ligues fantasy vous repêchiez comme premier quart ou dans le top 3 facilement à la position. Ce qui est intéressant, Tom Brady, c'est que l'écart entre les excellentes performances et les performances médiocres était très grand. Donc, il a lui aussi obtenu moins de 15,3 points fantasy dans 5 matchs cette saison. Donc, on peut se poser la question, est-ce que les performances excellentes, qui sont quand même peu fréquentes de ces corps arrière-là, valent le coup versus, disons, les matchs où les corps arrière ont vraiment été mauvais? Et ce qu'on peut remarquer ou ce qu'on peut en déduire ou la conclusion qu'on peut tirer chez les carrières, c'est que repêcher un carrière tôt, eh bien, la production n'est jamais vraiment garantie ou la valeur n'est pas vraiment garantie ou le rendement n'est pas vraiment garanti. Ce que les carrières comme Jalen Hurts, Josh Allen, Aaron Rodgers, Matthew Stafford, Justin Herbert ont permis cette année, c'est d'obtenir un excellent plancher pour vous à chaque semaine. Je pense qu'ils ont été plus utiles au niveau fantasy que des cars comme Patrick Mahomes et Tom Brady, dont les performances varient, le changement, la variance entre les deux extrêmes sont vraiment grands, est vraiment grande cette saison.
Ouais, ça n'a vraiment pas été constant. Hein? Ça a été tout ou rien d'une certaine façon. On sait que les Chiefs, à un certain moment donné, ils ont eu un passage à vide du côté de leur attaque. Là, on se demandait qu'est-ce qui se passe avec Patrick Mahomes, parce qu'il nous a tellement habitués à avoir des performances de 4 ou 5 passes de toucher par rencontre. Mais non, effectivement, non, c'est très intéressant là, ces comparaisons là, que tu as faites. Comme quoi que ça aurait peut-être été mieux d'avoir Jalen Hurts que Patrick Mahomes cette année parce qu'il a été plus constant et tu sais c'est décevant là, lorsque tu as une semaine où ton carrière partant fait juste 10 points, ça fait vraiment mal. Puis Tom Brady, la première chose qui me vient en tête, c'est le match contre les Saints de la Nouvelle-Orléans où ce que les Bucks ont été blanchis en plein, c'est la première semaine des éliminatoires en plus au niveau du fantasy football. Imagine-toi comment ça a dû faire mal aux propriétaires de Brady en termes de fantasy football.
Ici, on se projette dans la prochaine saison. Est-ce que c'est utile de repêcher un quart comme Patrick Mahomes? Parce qu'on s'entend, dans cette liste-là, Matthew Stafford, Aaron Rodgers, Justin Herbert, Jalen Hurts, Patrick Mahomes va être encore repêché avant ces quarts-là au niveau fantasy. Est-ce que, et tôt dans vos repêchages, est-ce que c'est à se demander si ça vaut la peine ou on peut attendre des quarts comme Jalen Hurts ou même des quarts qui vont pouvoir émerger davantage? Je pense rapidement à Joe Burrow qui a obtenu vraiment une fin de saison. Ben, il a connu deux matchs exceptionnels. Je sais, il y a plein d'impondérables, il y a plein d'intangibles, la façon dont on va mener l'attaque chez les Bengals la saison prochaine. Est-ce que ce sera plus une attaque axée sur l'attaque aérienne plutôt que le jeu au sol? Ça reste à voir, mais Joe Burrow peut et ça vous permet également, lorsque vous repêchez un quart vraiment plus tard, ça vous permet de combler d'autres positions qui priment ou plus importantes plus tôt dans votre repêchage.
Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'il y a plusieurs carrières que la production également est similaire au bout du compte, quand tu regardes ça. Donc, d'être patient avec la position de carrière au repêchage, peut-être que, du moins avec ce que tu viens de nous montrer, de nous prouver avec les chiffres à l'appui, c'est peut-être la stratégie à employer, comme tu dis, là, puis d'essayer d'avoir des meilleurs joueurs à d'autres positions. Maintenant, la position de porteur de ballon, comment ça s'est déroulé? Là? Quels sont les joueurs qui ont été les plus constants? Parce que ça a été vraiment une saison bizarre, là, la position de porteur de ballon, avec les blessures à Christian McCaffrey et Derrick Henry, notamment.
Vraiment bizarre. Et la charte de Fantasy Pro, je vais vous la montrer encore une fois. On dit que les performances médiocres, bon, c'est moins de 10,4 points fantasy par semaine. Une performance bonne, c'est entre 10,4 et 17,5 points fantasy. Une performance excellente, c'est plus de 17,5 points fantasy. Il a seulement eu deux joueurs cette saison qui ont obtenu un rendement exceptionnel, donc plus de 17,5 points fantasy dans au moins la moitié de leur match. C'est Jonathan Taylor et Derrick Henry. On s'entend que Derrick Henry on se base vraiment sur une demi-saison dans son cas. Les meilleurs porteurs de ballon en termes de ratio de qualité, donc je le répète, des performances bonnes et excellente. Et bien évidemment, Jonathan Taylor a tenu une saison exceptionnelle et les chiffres vraiment le reflètent encore. Austin Eckler vient en deuxième position avec 87%, donc 13 matchs sur 15. Il a tenu vraiment des départs de qualité. Et Najee Harris, 13 matchs sur 16. Ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est vraiment des receveurs qui sont des vaches à lait. Hein. En anglais, on dit des bell cow, des joueurs qui ont vraiment... qui dominent vraiment les opportunités dans le champ arrière à outrance ou qu'ils ont quasiment la totalité des courses au cours d'un match ou des opportunités
c'est
au cours d'un match.
C'est tellement rare ça maintenant, hein?
Exactement, exactement. Et c'est ça vraiment qu'on remarque, c'est que il faut vraiment trouver ces au cours des saisons parce que, mais encore là, est-ce que Vachalet ou ces porteurs de ballon qui sont utilisés à outrance, est-ce que c'est un gage de succès? Je vais vous donner deux exemples qui sont peut-être sur la pente descendante. On a vu Ezekiel Elliott cette année qui vraiment a connu une saison vraiment en dents de scie lui aussi. Il a obtenu moins de 10,4 points fantasy dans 7 matchs sur 16 cette saison. Il y a eu vraiment l'émergence de Tony Pollard, mais c'est vraiment surtout aussi le fait qu'Ezekiel Elliott, parfois également, je trouvais personnellement qu'il sauvait un peu ses semaines fantasy avec des touchés. Et Saquon Barkley, 10 matchs de moins de 10,4 points fantasy sur 13. Donc, c'est vraiment, on se questionne vraiment sur la part fantasy ou l'avenir fantasy de Saquon Barkley avec, il a tellement
été avec raison aussi
par les blessures.
Oui, je disais que oui, ça. Non, je disais c'est avec raison, oui, qu'on s'inquiète de l'avenir fantasy football et au vrai football de Saquon Barkley, parce qu'il est simplement pas le même joueur qu'il était avant de se blesser un genou. Mais on sait, hein, lorsqu'on souffre d'une déchirure à ligament croisant antérieur, ça prend au moins 2 ans afin de revenir à 100%. Donc, on espère que lors de la saison 2022, on va voir le Saquon qu'on avait vu en début de carrière, qui était tellement électrisant. Puis, ça même, du côté d'Ezekiel Elliott, il est définitivement sur la pente descendante. Je pense qu'on a vu le meilleur de la carrière d'Ezekiel Elliott. Il ne va jamais revenir au joueur qu'il était. Mais pour précisément cette saison, il est ennuyé par une blessure à un genou depuis quelques semaines. Puis j'ai remarqué, lors du dernier match même, il portait une orthèse à un genou. Donc ça va vraiment pas s'améliorant de son côté. Mais même pour l'année prochaine, Ezekiel Elliott, je mettrais une croix sur lui en tant que demi à l'attaque numéro 1 en termes de fantasy football. Je garde espoir que c'est quoi on peut relancer sa carrière toutefois.
Et ce sont deux porteurs de ballon, qu'on repêchait dans le top 10 à la position cette année. Et je veux peut-être terminer en vous parlant des duos, des comités, qui ne font vraiment pas bon ménage en fantasy. C'est un peu comme les agents de bord de Sunwing et un party privé en ce moment dans un avion. je vais vous parler de trois duos qui ont attiré mon attention, c'est-à-dire Aaron Jones et AJ Dillon pour débuter. Aaron Jones a obtenu plus de 17,5 points fantasy seulement 2 fois cette saison et on s'entend qu'Aaron Jones, vous l'avez repêché dans le top 10, voire dans le top 8 à la position. Et c'est même chose pour AJ Dillon, donc ça limite les opportunités, c'est frustrant. Même chose pour Melvin Gordon et Javonte Williams qui se sont mutuellement ennuyés cette année. Ils ont obtenu moins de 10,4 points fantasy près de 70% du temps et chacun a obtenu seulement 5 matchs de plus de 10,4 points fantasy. Même chose du côté de Damien Harris et Ramondre Stevenson. On était les premiers à s'en parler d'idées en disant que Ramondre Stevenson est vraiment un porteur de ballon dynamique, qui a un potentiel incroyable, mais le fait que de jouer avec Damien Harris, ça limite vraiment sa production fantasy. Les deux ont obtenu seulement 2 matchs de plus de 17 points fantasy. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les comités, ben, c'est vraiment pas pratique en fantasy, bien que. Et on s'enligne vraiment, la NFL s'enligne là-dessus de plus en plus sur des comités. Donc, je reviens à mon argument de départ. C'est vraiment important dans l'avenir de chercher ces vaches à lait-là parce que c'est payant et il faut être attentif parce que les vaches à lait, c'est ça qui est vraiment de l'or au niveau des porteurs de ballon en fantasy.
Ouais, puis les propriétaires de Damien Harris, imagine-toi comment ça a dû être frustrant la semaine dernière, semaine de finale fantasy. Il affronte les Jaguars de Jacksonville. Tu te dis, bon, ben ça y est, il va sûrement au moins gagner 80 verges au sol, 1-2 touchés. Là, c'est Ramondre Stevenson qui a été le plus utilisé, qui a été le plus productif. Alors ça représente bien la frustration que les propriétaires peuvent avoir face à ces comités de demi à l'attaque. C'est bon au vrai football, ça te permet d'avoir deux porteurs de ballon qui ont des jambes fraîches. Pour le fantasy football, là, c'est vraiment un cauchemar d'essayer de savoir qui faire jouer à toutes les semaines. Du côté des receveurs de passe, quels sont les receveurs qui ont été les plus constants? Il y en a un, je suis même pas obligé là, que tu me le dises. Je suis certain que Cooper Kupp, il va être là. Il a été incroyable pendant toute la saison.
Je vais vous présenter tout d'abord la charte au niveau des receveurs. Donc, encore là, je me suis basé sur le site Fantasy Pro. Bon, une performance médiocre, c'est moins de 8 points fantasy par semaine. Une bonne performance, c'est entre 8 et 13,7 points fantasy. Une excellente performance, c'est plus de 13,7 points fantasy à la position de receveur de passe. Évidemment, le meilleur ratio, ben, c'est Cooper Kupp et c'est vraiment exceptionnel dans son cas. Il a obtenu au moins, dans 15 matchs sur 16, il a obtenu un ratio de qualité supérieur à plus de 8 points fantasy. Et en deuxième position, c'est Deebo Samuel qui a obtenu vraiment 87% du temps, a obtenu un ratio bon ou excellent. Et en troisième, c'est Deontay Johnson. Ce qu'on remarque avec ces trois receveurs-là, c'est que c'est des joueurs qui ont vraiment été ciblés à outrance dans leur attaque respective. Et c'est des joueurs qu'on n'a pas repêché encore là tôt dans vos repêchages, parce que c'est des joueurs, spécialement Cooper Kupp et Deebo Samuel, c'est des joueurs qui avaient tendance dans les années antérieures à être souvent blessés, donc qui ont vraiment peut-être glissé dans vos poules. Et Deontay Johnson, ce n'est pas vraiment un choix dans les deux, trois premières rondes non plus. Donc, c'est intéressant à voir à quel point des receveurs qui sont impliqués dans des attaques, c'est vraiment ça la clé. C'est en anglais, ce qu'on dit, c'est toujours vérifier le terme, les targets, hein, les fois que vous êtes ciblés dans l'attaque, c'est ça qui prime. Et les joueurs avec des targets vraiment hauts cette saison, ben c'est eux qui ont vraiment été, qui ont obtenu le meilleur ratio de qualité. Évidemment, il y a des receveurs vraiment élites qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé cette saison. Je pense d'ailleurs à Tyreek Hill qui a vraiment connu une saison un peu à l'image de Pat Mahomes. Genre, je pense qu'un peu ça va de soi. Si Pat Mahomes a vraiment eu une mauvaise saison, je pense que Tyreek Hill, ben également, ses statistiques vont en souffrir. Tyreek Hill a obtenu, Didier, moins de 8 points fantasy dans 9 matchs cette saison sur 16. C'est pour un receveur que vous repêchiez dans le top 3, en première, voire début de deuxième ronde dans vos poules.
Ça fait mal.
Exactement, ça n'a vraiment pas été une bonne affaire pour vous. Et on peut se poser la question, est-ce que il a obtenu quand même plus de 14,7 points fantasy dans 5 matchs cette saison? Et on peut se poser la question, est-ce que le plancher d'un Deontay Johnson qui vous offre une production, disons, garantie à chaque semaine, est plus, disons, la valeur est-elle plus grande qu'un Tyreek Hill qui est vraiment encore là aux extrêmes, qui pour 5 matchs exceptionnels vous a offert quand même 9 matchs vraiment très, très, très ordinaires, ou qui vous a peut-être coûté une semaine lors de 9 matchs pour vous en faire gagner lors de 5? Donc, c'est vraiment une question qu'on peut se poser pour l'année prochaine.
Oui, non, ça, tu as entièrement raison là-dessus. Et quels sont, dis-moi, là, bon, chez les receveurs de passe, ceux justement là, qui n'ont pas bien performé là, tu viens de nous parler de Tyreek Hill, mais quels sont ceux là, qui ont été, s'il y en a d'autres là, qui ont été inconstants?
J'ai essayé de répertorier des receveurs de passe ou soit qui étaient repêchés tôt dans vos fantasy, ou soit qu'on trouvait que c'était peut-être un des sleepers ou des breakouts, là, des joueurs qui allaient éclore cette saison, puis que ça n'a pas vraiment été le cas finalement. Je pense notamment je vous présente 5 receveurs qui ont obtenu moins de 8 points fantasy dans plus de la moitié de leurs matchs. Et les noms sont quand même intéressants. Je pense à CeeDee Lamb, que tout le monde voyait comme étant un receveur qui allait éclore cette saison. Terry McLaurin, Allen Robinson. Dans son cas, Allen Robinson, ça a été une saison vraiment catastrophique. Il a vraiment
seulement
un match de plus de 8 points fantasy. Laviska Shenault, pour plusieurs, qui était un sleeper, un joueur qui pouvait vraiment passer sous le radar et qu'on repêchait quand même assez tôt dans les fantasy en début de saison. Ben, ça a été vraiment catastrophique pour lui. Et Michael Pittman également, il n'a pas connu vraiment une grosse saison. Et ce qu'on remarque de ces noms, c'est que deux choses. C'est que pour certains, ça a été le jeu du corps arrière qui les a affectés. On pense à Allen Robinson, Terry McLaurin, Laviska Shenault. Et pour certains qui ont obtenu quand même, tu sais, CeeDee Lamb est attaché à Dak Prescott. Ce qu'on remarque, c'est les opportunités. Je reviens au target. CeeDee Lamb n'est pas un joueur qui a été régulièrement ciblé à outrance à chaque match dans l'attaque des Cowboys. Donc, et Michael Pittman, c'est la même chose. On parle de peut-être 3, 4, 5 catchs ou 5, 6, ciblés 5, 6 fois dans un match. Donc, comparé à Cooper Kupp ou à des Deebo Samuel qui ont vu qui ont été ciblés plus de 10 fois par match. Donc, ces joueurs-là ont eu moins d'occasions de se faire valoir dans leur attaque respective. Donc, évidemment, plusieurs joueurs également ont comme Deebo ou Cooper Kupp dans son poste, ça a été vraiment atteindre la zone début qui a été la clé pour lui. Cooper Kupp a quoi, une quinzaine de touchés cette saison. C'est assez exceptionnel dans son cas. Donc, je voulais vraiment mettre en lumière des joueurs parfois qu'on pense qui tu sais, c'est ça, qui ont vraiment... c'est vraiment... Mon point ici que je veux amener, c'est vraiment les targets, comme je vous disais en anglais. Être ciblé dans l'attaque, ça prime sur bien des choses au niveau à la position de receveur en fantasy.
Non, t'as entièrement raison. Du côté de CD Lamb en particulier, c'est qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir du côté de l'attaque des Cowboys. Hein, pour Dak Prescott, on a plusieurs bons receveurs de passe, même la position des lits rapprochés avec Dalton Schultz, qui est un joueur quand même productif. Alors, c'est ça, ça peut être frustrant d'être propriétaire de CD Lamb, surtout qu'il mise sur un des meilleures carrières de la NFL. Mais là, bon, avec la blessure à Michael Gallup, peut-être qu'il va être ciblé davantage. Mais là, malheureusement, la saison de fantasy football est terminée. Mais pour le fantasy football individuel, ça va se poursuivre durant les éliminatoires. Alors, peut-être garder un œil là-dessus. Mais en tout cas, Marc-André, je ne sais pas combien de temps ça t'a pris là, afin de trouver toutes ces statistiques-là. Mais écoute, ça a valu la peine. C'est vraiment très intéressant.
Apprécié mon d'informations. Cours.
Pardon? J'ai grandement apprécié ton cours. Oui, j'ai écouté attentivement. Puis j'espère que les gens qui nous regardent ou écoutent l'ont apprécié tout autant parce que vraiment, là, c'était. Ça amenait à des questionnements là, en vue du repêchage l'année prochaine, l'été prochain, qu'on va repêcher nos équipes de fantasy football. Ce sont des points intéressants qu'on se doit de prendre en considération. Ben écoute, je te remercie énormément. On a fait le tour. Alors, on remercie également les gens qui nous regardent via YouTube ou via le site web du RDS.ca et les gens, bien sûr, qui téléchargent le podcast à toutes les semaines. On espère que cet épisode du podcast Sac du Quart vous a plu et on se reparle la semaine prochaine.